à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 universelle du vendredi 6 juillet 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. En Centrafrique, Médecins sans frontières suspend ses activités à Bria après une nouvelle attaque visant ses locaux.
Malheureusement, dans ces conditions, l'équipe va se retirer. C'est des soins qui ne seront plus dispensés aux enfants.
Le Parlement béninois autorise la révision de la Constitution. Les États-Unis et la Chine, en plein dans la guerre commerciale, les deux pays ont imposé des taxes réciproques d'une valeur de 68 milliards de dollars. Puis le chef de la diplomatie américaine en visite en Corée du Nord, Mike Pompeo, cherche des garanties sur le programme nucléaire nord-coréen. Ne ratez pas les informations sur l'actualité de la Coupe du Monde, la France qui élimine l'Uruguay avec 2-0. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Médecins sans frontières suspend ses activités à Bria, dans le centre-est de la Centrafrique. C'est en réaction à l'attaque de sa base locale dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Cette nouvelle décision de MSF n'est pas sans conséquence car ce sont plus de 700 enfants atteints du paludisme qui seront affectés d'ici à la semaine prochaine. Après avoir menacé et agressé le personnel, les assaillants ont pillé la base en portant plusieurs objets de valeur dont des outils de travail. Pour l'organisation humanitaire, ce deuxième incident grave en moins de 3 mois est inacceptable. Anne-Marie Bouyel-Dieu, chef de mission MSF en Centrafrique.
Le fait d'avoir attaqué de nouveau nos équipes a créé un sentiment d'insécurité au point qu'ils ne se sentent plus en mesure d'exercer correctement leur mission, qui est de dispenser des soins aux enfants de Bria. Malheureusement, dans ces conditions, l'équipe va se retirer. C'est des soins qui ne seront plus dispensés aux enfants.
Présente à Bria depuis août 2013, MSF offre des soins médicaux gratuits. En 2017, l'Organisation humanitaire internationale a consulté plus de 50 000 patients et puis en charge plus de 350 blessés dans la ville de Bria. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le Gabon a décidé de maintenir ses 444 soldats en Centrafrique où ils participent à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Libreville, dans un communiqué, déclare avoir répondu à la demande du président Faustin Archange Touadéra et du secrétaire général de l'ONU au titre de la solidarité africaine et de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité avec le peuple centrafricain. Le gouvernement gabonais précise qu'il s'engage par ailleurs à participer à la réorganisation de l'armée centrafricaine en accueillant des officiers de la dite armée dans les écoles militaires gabonaises. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande à la République démocratique du Congo de faire davantage pour garantir des élections crédibles et ouvertes en décembre prochain. Si des progrès ont été réalisés, il reste beaucoup à faire pour renforcer la confiance dans le processus et garantir que ces scrutins soient ouverts, libres, crédibles et pacifiques, comme le veut la Constitution, souligne le patron de l'ONU dans un document remis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Par ailleurs, le pape François a décidé d'envoyer un émissaire en République démocratique du Congo. Le Vatican indique que c'est pour le règlement des affaires de la nonciature dans un contexte de tension entre le gouvernement de la RDC et l'Église catholique. La Cour suprême du Nigeria a lavé de tout soupçon de corruption le président du Sénat, Bukola Saraki. Il était poursuivi depuis 3 ans, accusé notamment d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine alors qu'il était gouverneur de l'État de Kwara entre 2003 et 2011. En juin, la Cour avait jugé que les preuves apportées dans le dossier de l'Agence contre la corruption et les crimes financiers n'étaient pas suffisantes, mais la IFCC avait fait appel. Lors de ce nouveau jour d'audience à la Cour suprême, les 5 juges ont à l'unanimité donné raison au président du Sénat. Le Parlement béninois a autorisé la révision de la Constitution. C'est une mesure portée par le président Patrice Talon après une précédente tentative sans succès en avril 2017. Ce vote ouvre la voie aux propositions concrètes de modification. Il s'agit de l'amélioration de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, la suppression de la peine de mort ou encore l'alignement des mandats électifs. Nous y reviendrons en partie magazine. Et en France, un policier mis en cause dans la mort d'un jeune de 22 ans à Nantes assure avoir menti. Il n'a pas tiré par légitime défense, mais par accident, selon lui. De violentes manifestations secouent la ville. Raissa Girondin.
D'après son avocat, Laurent-Franck Liénard, le policier auteur du tir mortel a reconnu avoir fait une déclaration qui n'était pas conforme à la vérité lors de sa première audition. Cette fois, il a déclaré que c'était un tir accidentel alors qu'il plaidait pour légitime défense. Il est en garde à vue depuis jeudi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Aboubacar Fofana, 22 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a été touché au cou alors qu'il effectuait une marche arrière pour fuir la police. Par la suite, il est décédé à l'hôpital. Pour la troisième nuit consécutive, 48 heures après sa mort, des violences ont éclaté, s'étendant à de nouveaux quartiers de Nantes. Plus d'une cinquantaine de voitures ont été incendiées et en dépit de nouvelles révélations du policier, de nouvelles tensions pourraient survenir ce week-end à Nantes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Depuis minuit, heure de Washington, soit 4 heures temps universel, les droits de douane de 25% décidés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur sur un total de 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Plus de détails avec Claire Morin-Jubourg.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que des mesures de représailles sont entrées en vigueur immédiatement. Des droits de douane complémentaires de 25% sur un montant égal de produits américains selon l'agence officielle Chine Nouvelle. Ces nouvelles taxes ont déjà changé les habitudes des consommateurs chinois.
Je ferai de mon mieux pour soutenir les produits domestiques. Je viens juste d'acheter de l'eau. Je pense que les produits fabriqués en Chine sont les meilleurs.
Je ne vais certainement pas l'acheter si le prix augmente.
La Maison-Blanche avait déjà imposé des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium venant de la Chine, de l'Union européenne, du Canada ou du Mexique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Pyongyang. Il y tentera d'obtenir de Kim Jong-un un des engagements plus précis sur la dénucléarisation après le sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump. Yakuba Wetraogo.
Nos leaders ont pris des engagements lors du sommet de Singapour sur une dénucléarisation complète de la Corée du Nord, a déclaré Mike Pompeo lors d'une escale sur la base américaine de Yokota au Japon. Il a ajouté que le but de son déplacement est d'obtenir des détails sur ses engagements. Depuis sa rencontre le 12 juin à Singapour avec Kim Jong-un, le président américain s'est montré optimiste sur les chances de paix dans la péninsule, assurant que la menace d'une guerre nucléaire est écartée. Cependant, le communiqué commun de Kim Jong-un et Donald Trump ne détaille pas les engagements. Pour Washington, la dénucléarisation impliquerait de la part de M. Kim une déclaration détaillée sur son arsenal nucléaire et son programme d'enrichissement de l'uranium et que Pyongyang devrait accepter un calendrier pour son démantèlement sous inspection. Mike Pompeo se rendra ensuite à Tokyo, au Vietnam et à Abu Dhabi avant de rejoindre Donald Trump à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN les 11 et 12 juillet.
L'Iran a obtenu ce vendredi le soutien des Européens, de la Russie et de la Chine qui ont conforté son droit à exporter du pétrole et à rester un acteur du commerce international en dépit des menaces américaines liées au rétablissement des sanctions. Parmi les 11 objectifs définis ce vendredi, les signataires ont plaidé pour la poursuite des exportations de gaz et de pétrole iranien alors que les États-Unis ont demandé à tous les pays d'arrêter complètement leurs importations de pétrole d'ici le 4 novembre. Le nombre de migrants traversant la Méditerranée vers l'Europe a connu une baisse importante, mais le pourcentage de personnes trouvant la mort lors de traversées ne cesse d'augmenter selon l'ONU. En 2018, plus de 46 000 migrants ont rejoint les côtes européennes, soit 5 fois moins que dans les 6 premiers mois de 2016. Depuis le début de l'année, plus de 1 400 personnes sont mortes en tentant le voyage. Sept membres présumés du réseau djihadiste Al-Qaïda ont été tués ce vendredi dans une attaque de drone dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable de la sécurité. Les États-Unis sont les seuls à opérer des drones armés au Yémen et ils y visent régulièrement Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Les États-Unis ont intensifié les attaques contre cette branche d'Al-Qaïda depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017. L'ancien premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal anticorruption, une condamnation qui risque de porter un coup sérieux à son parti avant les élections législatives prévues le 25 juillet. Il a également été condamné à payer une amende de 10 millions de dollars dans une affaire d'achat d'appartements de luxe à Londres. Le tribunal a ordonné la saisie des appartements en question par le gouvernement fédéral. Nawaz Sharif se trouve à Londres au chevet de son épouse atteinte de cancer. Et puis, on vient de l'apprendre, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, un jeune pays donc enfoncé dans une guerre civile depuis 2013, ont convenu de retirer leurs forces des zones urbaines dans le cadre d'un accord qui a été signé ce vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on passe tout de suite avec le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous. La France s'est qualifiée pour les demi-finales de ce mondial 2018. C'était son objectif initial en battant l'Uruguay 2-0. Tout s'est joué en deux temps. Raphaël Varane de la tête avant la pause et Antoine Griezmann en deuxième mi-temps sur une énorme erreur de main du gardien uruguayen Fernando Muslera. Edinson Cavani était sur le banc, il était forfait en raison d'une blessure au mollet. Les Bleus sont donc dans le dernier carré de la Coupe du Monde, tout comme en 2006. C'est pour une troisième finale qu'ils espèrent, après évidemment 98 et 2006. Il faudra battre mardi à Saint-Pétersbourg le Brésil ou la Belgique qui s'affrontent à 18h, temps universel. Et pour ce match, le latéral gauche Marcelo fait son retour dans le 11 de départ du Brésil, où sont titularisés pour les Diables Rouges Marouane Fellaini et Nasser Chadli. Ce quart de finale se déroule à Kazan. Pour remplacer Casemiro suspendu, l'entraîneur brésilien a fait appel à Fernandinho en attaque. Gabriel Jesus garde la confiance de Tite malgré les entrées en jeu convaincantes de Firmino. Neymar sera accompagné de ses lieutenants habituels Philippe Coutinho et Willian. Et demain, les deux autres quarts de finale. Les Anglais rêvent de retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 28 ans. Les Suédois sont en quart de finale, une première depuis 24 ans. On rappelle qu'Harry Kane fait la course en tête. Il est le meilleur buteur du tournoi avec 6 buts. Et puis l'autre quart de finale opposera la Croatie à la Russie, pays organisateur. On le voit, Abdourahmane, la prédominance des pays européens. On en parle, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouet.
Bonsoir. Les deux affiches de la première journée des quarts de finale étaient sous le signe de l'éternel règlement de compte qui, à chaque édition, oppose l'Amérique latine à l'Europe. Jusqu'en 2002, l'Amérique latine avait pris un avantage de 9 titres contre 8, mais en 3 éditions d'affilée, l'Europe a rétabli l'équilibre et est passée devant en 2014. C'est la dernière Coupe du Monde en terre brésilienne qui a été le tournant de cette évolution. Alors que le Nouveau Monde, malgré sa sous-représentation, alignait 4 postulants sur 8 dès la phase décisive des quarts de finale et que tout semblait se dessiner pour un nouveau sacre de l'Amérique latine à domicile, l'Allemagne gâchait la fête finale puis s'emparait du Graal dans le temple sacré de Maracana, confirmant le leadership de l'Europe au niveau des sélections nationales. Les raisons de ce retournement du rapport de force sont connues. La mondialisation est passée par là, orientant les meilleurs joueurs de la planète vers son pôle le plus actif et le plus riche en matière de football, avec ses grands clubs devenus de véritables multinationales, alimentant une formation intense. Tout ce qui a contribué à rehausser le niveau individuel des joueurs aux qualités désormais diverses. C'est bien cette qualité individuelle supérieure conjuguée à l'amélioration progressive de la production collective, plus que l'absence de Cavani, qui explique la victoire logique de la France contre l'Uruguay. Dès lors, le Brésil apparaît pour le sous-continent américain comme le dernier des Mohicans, capable d'inverser la vague européenne, même si la Seleção apparaît de plus en plus comme l'arbre qui cache la forêt. À bientôt.
Et voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, Abdourahman.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Les députés béninois disent oui au principe de la révision constitutionnelle. Le peuple béninois, à travers un référendum, est donc appelé à se prononcer sur cette révision de la loi fondamentale du pays qui pourrait aboutir à une plus grande représentativité des femmes au Parlement. La peine de mort devrait aussi être supprimée si le texte est adopté. C'est la correspondance de Ginette Fleur-Adondé à Cotonou.
Après l'échec qu'avait connu le processus de révision de la Constitution en avril 2017, un groupe de députés acquis à la cause du gouvernement Talon a introduit au Parlement la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Elle porte sur quatre points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Le constitutionnaliste y voit un piège, un désir de tout contrôler.
Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever des immunités, il ne faut pas les lever, etc. Ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée.
Pour les pro-révisionnistes, il ne s'agit pas d'un acte isolé qui tient à dépouiller la loi fondamentale de son essence, mais il s'agit d'une volonté de rendre plus vivants certains aspects de la loi fondamentale pour la vitalité de la démocratie béninoise. Jean-Michel Abimbola.
Résolument, nous voulons et nous souhaitons éviter la polémique. Aujourd'hui, dans le souci de la transparence, dans le souci d'économiser pour le pays, dans le souci de mettre les Béninois au travail, il est quand même important de façon objective que ces petits amendements-là soient fait afin que véritablement que notre pays puisse désormais commencer par travailler.
Comme l'exige la procédure du Parlement béninois en de telles circonstances, le dossier a pris par la commission des lois qui a adopté la proposition. Après avoir voté dans un premier temps pour la prise en considération du projet de révision de la Constitution qui leur est soumis par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, le vote de l'approbation qui requiert la majorité des 4/5 des députés n'a pu être concluant. Pour le député Arif Haribako, rien que le point relatif à plus de représentativité des femmes aurait pu convaincre ses collègues à approuver cette révision de la Constitution.
Si nous réussissons aujourd'hui à avoir un consensus global au sein de notre hémicycle, en dehors de l'hémicycle, quant à la participation politique des femmes, il s'agit d'une grande avancée pour notre démocratie. Et je ne comprends pas, et je ne veux pas aussi accepter que dans cet hémicycle, qu'un député, fils de femme, mari de femme, puisse voter ici contre une telle disposition qui permette la promotion des femmes en termes de participation politique.
Le Front pour le Suisseau Patriotique, très critique contre les actions du gouvernement, pense que les députés ont tort de penser qu'à la représentativité des femmes au sein du Parlement. Pour eux, toutes les couches de la société méritent qu'on se batte pour leur participation au vote des lois qui engagent le destin de tout le peuple béninois. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Que représente la fête du 4 juillet pour les Noirs américains? C'est la question posée ce soir dans l'Amérique et vous. Lorsque la déclaration d'indépendance a été signée le 4 juillet 1976, des Noirs étaient encore esclaves aux États-Unis. Conséquence, pour certains, les célébrations annuelles du 4 juillet ont un goût amer. Quel rôle ont-ils joué dans la guerre d'indépendance? Aujourd'hui, comment perçoivent-ils ce jour férié? On en discute avec nos invités à 19h temps universel.
Le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général malien Didier Dako, a été remplacé. Son départ fait suite à une récente attaque contre le quartier général de la force régionale à Sévaré, dans le centre du Mali. Alors comment ce limogeage du général Dako est-elle perçu par les populations à Mopti? C'est un reportage de Mamoudou Bokoum sur place.
Cette décision de remplacer le général Didier Dacko à la tête du commandement de la force du G5 Sahel a été mal accueillie par la population mopticienne. D'aucuns voient en elle une recolonisation de l'Afrique.
Moi, je ne suis pas d'accord. D'autant plus que le Mali, c'est un pays indépendant. Cela veut dire que toujours nous sommes sous la colonisation française.
C'est la France qui l'a relevé, pas le Mali. Donc cela veut dire qu'on est toujours colonisé par la France. En un mot, le gouvernement malien ne peut rien faire sans l'avis des Français. C'est la France qui décide le tout. On n'est pas content de la réaction de la France, de ce que la France est en train de faire au Mali. On n'est pas content de ça.
Il faut savoir quand même que c'est un coup dur pour non seulement cette organisation nommée G5 Sahel, mais encore le plus intriguant, c'est que la décision vient de la France. Ça montre encore que l'Afrique n'est pas tout à fait souveraine, et plus particulièrement ces pays qui composent le G5 Sahel, qui sont en grande partie, je dirais, colonisés par la France. Est-ce là, ce n'est pas un peu une récolonisation?
L'ingérence ou la colonisation, en tout cas à Mopti, on estime que cette décision devrait être prise d'abord par les autorités des pays qui composent l'organisation.
Je voulais que, à ce que les pays du G5 s'assoient et décident, c'est à eux de décider le sort de Guinée, donc c'est pas la France.
S'il y a n'importe quel problème au Mali aujourd'hui, c'est aux Maliens de gérer leurs problèmes à pied par la France.
Si ce sont ces cinq pays qui composent le G5 Sahel, même si encore l'appui quand même vient de la France, ils devaient quand même laisser la latitude, au moins à ces G5 Sahel, notamment la présidence, le pays qui assure la présidence, de faire l'annonce.
La question qui se pose ici, c'est de savoir, est-ce que cette décision n'influence pas négativement la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière? Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, l'élection présidentielle est annoncée pour cette année, mais la date précise n'est pas encore connue. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis des décennies, n'a pas encore dit ses intentions. L'homme d'affaires Jean-Blaise Gouette a annoncé le 26 avril qu'il est candidat, devenant le premier candidat déclaré dans la course à la présidentielle. Idriss Fall a d'abord demandé à Jean-Blaise Gouette quelle solution à la crise anglophone.
Depuis Boko Haram, le Cameroun, qui a été cet havre de paix, traverse aujourd'hui une période assez difficile. Cette période crise anglophone, pour moi, elle n'est que normale parce que je l'avais vue depuis peu près 4 ans. J'avais fait une note à la haute hiérarchie en leur disant, si on ne faisait pas attention, on risquerait de voir en fait naître d'autres poches de tension avant l'élection 2018. Hein. La crise anglophone est un malaise profond du peuple camerounais et voilà un peuple qui en fait a eu le courage de se dire non, nous ne voulons plus ça. Nous voulons en fait choisir ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous.
Est-ce que vous êtes en train de légitimer ce que font les séparatistes?
Légitimer, non. Aujourd'hui, il y a un malaise qui est profond. Ce malaise qui est profond amène les Camerounais, ou aujourd'hui certains Camerounais, à se soulever et à dire non. Maintenant, dire non, il y a un cadre légal dans lequel on peut protester. Ce cadre légal a effectivement été outrepassé. Le pouvoir en place fait exactement ce que moi je devrais faire demain. Voilà. Mais on ne peut pas fermer les yeux pour dire que ce problème-là, pourquoi ces gens sont fâchés? Ils sont fâchés effectivement parce qu'il y a une mauvaise répartition de nos richesses. Le pétrole est produit de ce côté de notre nation. Lorsque vous allez dans ces régions-là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Quand on va à l'hôpital, on est obligé de mourir. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail. Un ensemble de choses qui en fait poussent aujourd'hui les Camerounais à se soulever. Que cette crise anglophone n'est pas qu'un problème d'anglophone, mais c'est une situation généralisée. Vous venez chez moi en pays bassin, vous allez trouver que nous produisons d'électricité et nous-mêmes là-bas, dans cette région, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, le système en place a fait ce qu'il a pu faire, mais il est temps aussi aujourd'hui de laisser les fils continuer à s'asseoir ensemble pour voir comment ils peuvent ramener ensemble la paix. Et comment est-ce que ce problème anglophone, on va le résoudre demain?
Vous êtes prêt à discuter avec les leaders anglophones en exil, les leaders de l'Amazonie, libérer les prisonniers anglophones?
Les premières actions déjà est de libérer ces fils-là, d'inviter tout le monde au dialogue. S'ils veulent du fédéralisme, s'ils veulent diviser le Cameroun, un référendum, ce qu'il faudrait laisser libre choix aux Camerounais de choisir exactement ce qu'ils veulent.
Mais les francophones sont majoritaires, donc les résultats de ce référendum sont donc connus d'avance alors.
Résultats connus d'avance, nous avons en principe une crise, qui est une crise généralisée. Donc moi, je ne connais pas un problème anglophone. Moi, je parlerai plutôt de problèmes des Camerounais. Une partie de nos frères et sœurs qui a été courageux de s'élever devant les armes. C'est-à-dire qu'une partie des régions ou deux parties des régions se sont levées pour dire non, nous ne voulons plus, nous préférons mourir parce que debout, nous sommes déjà morts.
C'était le milliardaire camerounais Jean-Blaise Gouët, candidat déclaré à la présidentielle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
À Dakar, les populations sont confrontées à une forte pénurie d'eau depuis plusieurs mois. Les familles restent des jours sans voir la couleur de l'eau, et ce qui n'empêche pas les factures d'être toujours plus chères. Les autorités en charge de l'eau sensibilisent les populations et annoncent de gros investissements pour faire face à cette situation. En attendant, Dakar et sa banlieue ont soif. C'est un reportage de Seydina Abagué.
À Rufisque, les femmes se tournent souvent vers les charretiers pour s'approvisionner en eau. Depuis le début de l'année, les populations sont confrontées à une forte pénurie d'eau. Ibrahim Fall passe des nuits blanches pour s'approvisionner.
Cela fait pratiquement 6 mois que nous vivons le calvaire du manque d'eau. Nous restons éveillés toute la nuit avec nos enfants pour attendre l'arrivée des quelques gouttes qui nous permettent d'avoir un peu d'eau durant la journée. Nous sommes vraiment fatigués par cette situation.
Ce manque d'eau met les femmes dans une position inconfortable, comme l'indique Bekay Fall. Ce dernier décrit le calvaire quotidien des dames.
Nos sœurs et nos épouses souffrent énormément de cette situation. Même s'il y a panne, les autorités doivent nous aider en réglant cette situation. Les femmes parcourent de longues distances pour se ravitailler en eau, ce qui est très difficile et déplorable. On reste toute la journée sans eau.
En tout cas, toute la journée.
Du côté des autorités, on explique cette situation par un problème d'investissement, mais aussi par une forte croissance démographique. Yaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, apporte des éclaircissements.
Ces déficits de production est là parce que tout simplement, il y a un retard d'investissement. Il y a un moment où l'investissement ne suivait pas la demande. Et l'investissement ne peut pas suivre la demande puisque ce sont des investissements lourds qui demandent un financement très important. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi cette donne démographique qui n'est pas négligeable. Une croissance d'au moins 3,5%.
Au-delà des problèmes en approvisionnement, les populations se plaignent de la cherté des factures. Sakounian est une mère de famille qui juge cette situation incompréhensible. Elle interpelle les autorités.
À chaque fois, facture de feuille gagne yoku. Man lolo moy sama question. SDE, nan ngeen di def pour facturer?
Il faut que la société des eaux nous explique comment elle fait pour nous servir des factures aussi élevées en période de pénurie. On dépense au moins 4 000 francs CFA pour acheter de l'eau aux charretiers, ce qui est très difficile. Nous sommes vraiment sidérés par cette situation.
Du côté de la Sénégalaise des eaux, on appelle les populations à plus de vigilance pour ne pas s'exposer à une hausse des factures. Ndiaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, sensibilise sur ces cas.
Toutefois, je dois dire que par moment, surtout dans les zones où il y a des difficultés d'approvisionnement, les clients souvent ouvrent le robinet et pensent pouvoir attendre l'eau tranquillement. C'est une erreur de leur part que nous essayons de leur expliquer chaque fois qu'on a l'occasion de les rencontrer, puisque l'air peut faire fonctionner le mécanisme du compteur. Parce que quand vous ouvrez un robinet, vous sentez un sifflement. Ça veut dire que le compteur a déclenché. Si vous ne fermez pas, malheureusement, vous n'avez pas d'eau, mais le compteur est en train de compter comme si c'était de l'eau.
Pour mettre fin à la pénurie d'eau et soulager les populations, les autorités ont lancé de gros investissements qui, à terme, devraient garantir une offre supérieure à la demande jusqu'en 2035. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Lionel Gaïma qui l'a réalisé. À la console, il y avait Dan Crafton. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écouté Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.